Revenir à la Bible. C'est ce qui plaît au Sauveur. Jésus appelle les siens. Répondez à son appel. Souvent, nos pères ont désiré, alors qu'ils habitaient à Babel, revenir à Sion, où l'unité habite. Revenir à la Bible, à la lumière dans la parole. Que cela soit notre slogan pour toujours. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible. Où les divisions cessent. Fuir de Babel pour Sion. Oh, quel parcours béni. Comme si longtemps nous avions cherché et désirions la lumière. C'est au soir que nous l'avons trouvé, tel que la parole le promet, l'a promis. Revenir à la Bible, à la lumière dans la parole. Que cela soit notre solution pour toujours. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible. Suivre l'appel du Seigneur. Revenir à la parole du Sauveur que nous aimons mettre en pratique. Ne plus jamais nous éloigner de lui qui nous a si glorieusement libérés. Nature céleste déjà ici sur terre. Oh, quelle béatitude. Revenir à la Bible. Revenir à la lumière de la parole. Que cela soit notre solution pour toujours. Être saint pour le Seigneur. On m'a parlé souvent du ciel, de la gloire. Où les béatifiés chantent. Moi aussi, je veux y être un jour. Alléluia. Je veux chanter. Alléluia. Je marche pour le ciel. Dans le cœur, la mélodie résonne. Et je sais que bientôt, j'y serai. J'entends de ce troupeau sans souci, de ce pays sans détresse, sans division. Oui, les cœurs le désirent. Un jour, j'y serai. Alléluia. allons tous se réjouir. Toutes les douleurs ont disparu. Et nous serons dans la gloire. Ô mon ami, bientôt, j'y serai. On m'a parlé des couronnes en or et des vêtements blancs et de la rémunération pour tous les fidèles. Bientôt, j'y serai. Alléluia. En esprit, je veux chanter dans l'esprit. J'entends déjà la chorale des anges, le retentissement des chants glorieux, car je sais que bientôt j'y serai. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous une très cordiale bienvenue de près et de loin au nom très cher de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur de nous avoir permis d'entendre cet après-midi encore la parole de Dieu de la part de son serviteur fidèle. Une année s'est déjà écoulée et une nouvelle année a commencé. Et nous aussi de Zurich, nous souhaitons à tous, chers frères et sœurs, une année 2023 bénie. Nous remercions le Seigneur de nous permettre d'entendre encore la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont pris des résolutions pour la nouvelle année. Moi aussi, j'ai pris une résolution. Gardez fidèlement et loyalement cette parole de Dieu. Le Seigneur est la parole. Et la parole est pour nous la vie. Oui, la vie éternelle. Avant d'écouter la parole, je voudrais lire une parole du psaume 25. Psaume 25, du verset 1. De David, Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi, je place ma confiance. Que je ne sois pas déçu, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Non, aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera déçu. Seul sera déçu celui qui t'abandonnera en toute infidélité. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Fais-moi marcher dans ta vérité. Et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. C'est toi que j'attends en tout temps. Souviens-toi des preuves de ta miséricorde. Ô Éternel, et que tes promesses de grâce remontent aux temps anciens. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes transgressions. Non, selon ta grâce, souviens-toi de moi à cause de ta bonté. L'Éternel est bon et sincère. C'est pourquoi il montre pécheur le droit chemin. Fais marcher les opprimés dans la droiture et enseigne sa voie à ceux qui s'attendent à lui. Tous les sentiers de l'Éternel sont grâce et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. À cause de ton nom, ô Éternel, pardonne ma faute, car elle est grande. Qu'en est-il de l'homme qui craint l'Éternel? Il lui montre la voie qu'il doit choisir. Lui-même habitera dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. L'Éternel a de l'amitié pour ceux qui le craignent et son alliance les conduit à la connaissance. Mes yeux sont toujours fixés sur l'Éternel, car il retirera mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi, aie pitié de moi, car je suis seul et misérable. Les angoisses de mon cœur se sont alourdies. Oh, fais-moi sortir de mes détresses. Regarde ma misère et mon malheur et pardonne-moi tous mes péchés. Regarde mes ennemis, combien ils sont nombreux et comme ils me haïssent d'une haine violente. Protège mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas déçu, je mets ma confiance en toi. Que l'innocence et la droiture me gardent, car je m'attends à toi, ô Éternel. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Quelle parole glorieuse et merveilleuse. Une prière de David. Le verset 3. Non, aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera déçu. Seul sera déçu celui qui t'abandonnera en toute infidélité. Nous ne serons pas déçus. Dieu est oui et amen. Au verset 10, tous les sentiers de l'Éternel sont grâce et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Oui, nous gardons la parole de Dieu car elle est oui et amen. Au verset 12, il est écrit, qu'en est-il de l'homme qui craint l'Éternel? Il lui montre la voie qu'il doit choisir. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne nous a-t-il pas montré le bon chemin que nous devons suivre? Marchons selon la parole de Dieu, car sa parole est oui et amen. Nous remercions le Seigneur pour la bonté et la grâce qu'il ne cesse de nous accorder. Nous voulons prier. Seigneur fidèle, nous te remercions, nous louons et exaltons ton merveilleux nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur fidèle, de nous avoir placés ici sur ce chemin. Tu nous l'as montré et nous te remercions. Garde-nous, protège-nous sur ce chemin que nous empruntons maintenant à ta rencontre. Seigneur Jésus, nous savons que le temps est court. Et je te remercie de nous accompagner sur ce chemin. Nous avons confiance en toi, nous l'avons lu et nous le faisons, Seigneur Jésus. Nous avons confiance en ta parole, car ta parole est la vérité. Nous te remercions, Seigneur Jésus, de bénir aussi notre frère bien-aimé Franck, notre bien-aimé frère Franck, oint ses lèvres pour qu'il puisse nous dire ce dont nous avons besoin. Seigneur fidèle, nous te remercions et louons ton nom merveilleux et glorieux. Au nom de Jésus, amen. Je voudrais moi aussi saluer tout le monde très très chaleureusement depuis Zurich et souhaiter à tous de tout cœur la bénédiction de Dieu. Vous savez que j'ai eu la grâce de parcourir le monde entier et de porter le message. Mais la Suisse et Zurich en particulier a une signification particulière pour moi. Pendant exactement 50 ans, j'ai prêché ici à Zurich chaque dernier dimanche du mois, ici à Zurich. Ce n'est que 3 fois en 50 ans que je n'ai pas pu être ici le dernier dimanche. Pour moi, Zurich est un deuxième Krefeld, une maison directe. Et nous avons eu des réunions bénies pendant toutes ces années. Et je pense aussi à la table des brochures que nous avons montrées à plusieurs reprises. Toutes les prédications de Frère Branham ont été exposées et tout le monde a pu lire et s'informer sur ce que Dieu a fait à notre époque. Nous remercions de tout cœur Frère Keller pour sa belle parole d'introduction. Chaque verset a exprimé toute une chose et nous pourrions nous y plonger. Je n'ai choisi que 3 de ces versets pour dire quelque chose. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que nous sommes reconnaissants que les réunion puisse à nouveau avoir lieu à Zurich. Ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années à cause de la pandémie a causé des dommages à beaucoup. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur car les réunions sont ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un croyant. N'abandonnez pas vos assemblées, vos réunions, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Hébreux 10, verset 25. Il y a quelque chose pour chacun dans chaque prédication. Regardons maintenant encore les 3 versets du psaume 25, puis d'autres passages bibliques. S'il te plaît, nous lisons du psaume 25, le verset 3. Psaume 25, verset 3. Non, aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera déçu. Seul sera déçu celui qui t'abandonnera en toute infidélité. Nous pouvons également dire oui et amen à cela. Aucun de ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur, qui croient aux promesses de Dieu, ne peut être déçu. Seul celui qui abandonne déloyalement le Seigneur sera déçu en lui-même et en autrui, s'il te plaît. Nous lisons du psaume 25, le verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. C'est aussi notre souhait le plus cher. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi. C'était déjà la prière de Moïse. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Et nous remercions le Seigneur Dieu de nous avoir fait connaître son chemin avec son peuple dans ce temps présent. Et nous pouvons y marcher par la foi et par la grâce. S'il te plaît, nous lisons du psaume 25, toujours maintenant le verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont grâce et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Amen. Tous ses sentiers, toutes ses voies, car il a conclu une alliance avec nous. Frères et sœurs, bien-aimés de Suisse, d'Autriche, de France, de tous les pays voisins et du monde entier, vous connaissez la phrase que j'ai formulée. Fidèle Seigneur et Rédempteur, tu as conclu une alliance avec nous. Tu nous as révélé ta parole. Tu as versé ton sang pour nous. Tu nous as fait des promesses que nous vivons tous par grâce, que nous expérimentons tous par grâce. Dieu a vraiment conclu la nouvelle alliance avec nous. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Même les promesses pour notre époque, sur lesquelles nous reviendrons brièvement, s'il te plaît. Nous lisons dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, le verset 23. Jean, chapitre 1, verset 23. Il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a ordonné le prophète Ésaïe. » Nous connaissons tous les trois questions posées à Jean. Es-tu le Christ? Es-tu Élie, es-tu le prophète ? Il pouvait et devait répondre non, non, non. Puis la question, qui es-tu ? Et puis la réponse, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez une route pour notre Dieu. Jean-Baptiste était un homme envoyé par Dieu avec l'ordre et le mandat divin d'apporter le message divin lors de la première venue du Christ et d'amener le peuple au Seigneur, voire de tourner le cœur des pères de l'Ancien Testament vers la foi des enfants du Nouveau Testament et d'amener au Seigneur un peuple bien préparé. Bien préparé. Chers frères et sœurs, chers enfants de Dieu, aujourd'hui, il ne s'agit de rien d'autre que de la promesse qui s'est accomplie à notre époque et qui continue de s'accomplir. À quoi servirait-il que je prêche aujourd'hui sur ce qui s'est passé au temps de Moïse, au temps d'Abraham, pendant ces 6000 ans, si je ne savais pas ce que Dieu a prévu pour cette période et ce qui devait arriver maintenant, et nous sommes destinés à en témoigner, et en particulier à tous les amis qui ne sont pas familiers avec le ministère et le mandat direct que frère Branham a reçu. Laissez-moi dire ceci. Nous ne sommes pas ici pour mettre Paul en avant ou alors Pierre ou alors Branham ou qui que ce soit. Non. Mais nous sommes ici pour ne pas non plus passer à côté de ce que Dieu a fait et fait actuellement dans notre époque, fait maintenant actuellement. Et celui qui ne peut pas prêcher ce que Dieu fait maintenant, il vit dans le passé. Et je voudrais pouvoir l'exprimer une fois, et ce très sérieusement. Nous savons tous qu'à l'époque des apôtres, déjà, des enseignements pervers, des faux enseignements étaient présentés. Déjà, dans le premier écrit aux églises, dans l'Apocalypse, il est écrit, tu as éprouvé ceux qui se prétendaient apôtres, qui se prétendaient envoyés, et tu as reconnu en eux des menteurs. Apocalypse 2, verset 2. Ensuite, il est question de l'enseignement de Balaam, l'enseignement des Nicolaïtes. Il y avait une prophétesse, Jézabel, dès la première génération chrétienne. L'ennemi a semé sa semence. Et Paul, probablement sur l'ordre divin, sous un mandat divin, oui, certainement, sur ordre divin, s'est tellement mis en colère contre tous ces enseignements pervertis, sur tous ces faux enseignements, qu'il a dû même dire dans Galates 1, maudit soit celui qui enseigne autrement. Galates 1, verset 8, il avait été chargé par Dieu, mandaté par Dieu, de proclamer le glorieux évangile, le message divin du salut, et cela jusqu'à dans ses moindres détails. Et c'est pourquoi il devait même dire pour la deuxième fois, maudit soit celui qui annonce un autre évangile. Galates 1, verset 9. Et pourtant, il est parti du principe que le Seigneur a fait un testament avec nous. Et nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament auquel rien ne doit être ajouté à cette dernière volonté de Dieu. Rien ne doit être changé. Rien et encore une fois rien. Tout doit rester dans l'original, dans sa forme originale. Et si nous regardons ensuite l'histoire, dans l'histoire de l'Église, les 300 premières années, il y avait encore des hommes qui sont restés quelque peu dans la prédication, mais qui proclamaient déjà leurs propres opinions. Ils proclamaient leurs propres opinions. Nous ne voulons pas mentionner tous les noms, mais ensuite est venu le concile de Nicée, et alors a vraiment commencé la période la plus terrible des 1000 ans, de l'âge des ténèbres, où tous ceux qui n'appartenaient pas à l'Église romaine dans l'Empire romain n'avaient pas le droit de vivre. Le sang des martyrs a arrosé la terre entière pendant les 1000 ans qui ont précédé la Réformation, donc jusqu'à la Réformation. Et s'il vous plaît, ne m'en voulez pas, mais vous pouvez tous ouvrir l'Internet et lire vous-même. L'Église romaine a publié 245 dogmes pendant cette période. Et toutes les autres églises ont établi leur doctrine, leur credo, leur confession de foi. Toutes se sont écartées de cette originale, de cette parole originale. Et maintenant, nous arrivons vraiment à ce point. Maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, tout doit être rétabli dans son état original. La même proclamation, la même prédication, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, tout doit être rétabli. Et nous savons tous que depuis la Réformation, les vérités bibliques ont été peu à peu restituées. Ce fut un réveil l'un après l'autre jusqu'au réveil de Pentecôte. Mais maintenant, c'est le temps de l'appel à sortir et de la préparation de tous ceux qui font partie de l'Église épouse. Et c'est ce que nous voulons aborder brièvement maintenant. Nous lisons pour cela Matthieu 17, versets 10 et 11. Les disciples lui demandèrent alors, comment donc les scribes peuvent-ils dire qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra et rétablira toutes choses dans l'état initial. Frères et sœurs, bien-aimés, chers frères, chers amis, ce sont les paroles de notre Seigneur lui-même. Il a confirmé le ministère de Jean-Baptiste. Élie est déjà venu. Et celui qui lit les autres passages bibliques, que ce soit Matthieu 11 ou les autres passages, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a apparu, s'est levé dans l'esprit et avec la puissance d'Élie, il a tourné vers le Seigneur les cœurs des croyants de l'époque et a préparé le chemin pour que tous ceux qui ont cru en son message aient reçu la promesse. Je vous baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a ainsi pu présenter au Seigneur un peuple bien préparé. Il doit en être de même maintenant. Il faut présenter au Seigneur un peuple bien préparé afin qu'il puisse conclure, qu'il puisse achever son œuvre avec son peuple. Et laissez-moi le dire clairement, il n'y a pas une seule fausse doctrine dans l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a pas une seule interprétation, pas une seule erreur, pas une seule explication. Dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a que la pure et sainte parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu que nous croyons de tout notre cœur. Il en va de même pour la promesse que Dieu a déjà faite dans l'Ancien Testament, dans le prophète Malachi, avant que ne vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Il a promis d'envoyer le prophète Élie. Et notre Seigneur a confirmé à nouveau cette promesse justement dans Matthieu 17, afin que nous, fils et filles de Dieu, puissions savoir maintenant à la fin du temps de la grâce, à la fin du jour du salut, avant que le jour terrible du Seigneur ne se lève, avant que le soleil ne s'obscurcisse et que la lune ne se change en sang, avant que le temps de grâce ne s'achève, que Dieu enverrait un prophète pour restituer, restaurer, rétablir tout, pas seulement une chose, mais tout, et pour remettre tout en ordre dans l'Église, comme c'était au commencement. Comme c'était au commencement. Poursuivons notre lecture. Nous lisons le verset 11 d'Amos 8. Amos 8, verset 11. Amos 8, verset 11. Sachez que des jours viendront, c'est ainsi que Dieu l'Éternel l'a déclaré, j'enverrai la faim et la soif dans le pays, non pas la faim de pain et la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel.
Amen.
Cette promesse de l'Ancien Testament est également en train de s'accomplir. Dieu a envoyé une faim à entendre ses paroles. Ces paroles qui sortent de sa bouche. Ces paroles qui sortent de sa bouche par les interprétations sur la parole que l'on entend dans toutes les églises. Partout, on lit la Bible, ils lisent la Bible partout. Ils interprètent partout. Ils apportent ensuite leurs propres interprétations et leurs propres opinions. Mais Dieu envoie des prophètes car la parole vient au prophète. Pas à l'évangéliste, mais au prophète. L'évangéliste a sa tâche, l'enseignant, le berger, tous ont leur tâche. Mais aujourd'hui, il s'agit effectivement du premier et du dernier. Les paroles du Dieu vivant qui doivent être prêchées. Car s'il est écrit, qui doivent être annoncés, car s'il est écrit que Dieu enverra une faim pour entendre ses paroles, donc il faut bien qu'il y ait une voix pour annoncer clairement ses paroles. Alléluia! Loué soit notre Seigneur! Et une telle voix était celle de frère Branham qui a proclamé les pures et saintes paroles de Dieu. Et la vraie faim que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, elle a été satisfaite. Et soyez honnêtes, est-ce que l'un d'entre nous, soyez sincères, est-ce que l'un d'entre nous a envie d'entendre les dogmes? Non! Et encore non! Est-ce que quelqu'un a envie de savoir ce qu'enseigne l'église anglicane ou l'église luthérienne ou l'église baptiste? Un véritable enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, a-t-il envie d'entendre ce qui est enseigné dans toutes ces églises? Ou bien Dieu a-t-il envoyé une véritable faim dans le pays, dans tous les peuples et toutes les langues, d'entendre seulement les vraies paroles de Dieu dans l'original, dans leur forme originale? Et nous sommes reconnaissants à Dieu, chers frères et sœurs. À cette occasion, je dois tout de même dire que le 2 avril 1962 a eu une importance dans l'histoire du salut. Non seulement pour moi, c'était un jour extraordinaire, mais il a apporté et porte en lui une importance dans l'histoire du salut. C'était cette semaine-là, le mardi, quand une sœur est venue au bureau et a dit, « Frère Franck, j'ai parlé à mon frère et je lui ai dit que le Seigneur t'avait parlé. » Et sa réponse a été, Étais-tu présente? Et j'ai vraiment souri, oui. J'ai dû sourire. Oui. Il lui demande, étais-tu présente? Frère, bien-aimé, chère sœur, étais-tu présent quand le Seigneur a parlé à Abraham? Étiez-vous là quand il a parlé à Moïse? Étiez-vous là quand il a parlé? Quand il a appelé Paul, étiez-vous là quand il a appelé Pierre? Étiez-vous présent quand il a appelé Paul et tous les autres apôtres? Est-ce que j'étais présent? Est-ce que j'étais là? Non, pas du tout. Mais j'étais là quand le Seigneur m'a parlé et m'a effectivement adressé ses paroles. Et frères et sœurs, Je dois simplement le répéter dans les moindres détails. Encore une fois, c'était très tôt le matin. Je m'étais déjà préparé pour la journée. Je suis allé à la fenêtre, j'ai tiré les rideaux, j'ai regardé dehors. Le soleil n'était pas encore levé, mais c'était l'aube. Et je suis revenu dans la pièce, j'ai prié brièvement et j'ai remis la journée au Seigneur. Puis j'ai à nouveau regardé à la fenêtre et à droite de la fenêtre, le Seigneur se tenait là et m'a dit, « Mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je vais t'envoyer dans d'autres villes pour prêcher ma parole. » C'est aussi vrai que toutes les paroles de la Bible. Aussi vrai que toutes les paroles dans la Bible. Vous connaissez en effet tout le mandat que le Seigneur m'a adressé, la commission, le mandat, et que Frère Branham a confirmé le 3 décembre, et en particulier les 2 et les 3 décembre 1962. Le message divin a effectivement été porté dans le monde entier. Et tous ont entendu parler de ce que Dieu a promis pour ce temps. S'il te plaît, nous lisons de Matthieu 24, verset 45. Matthieu 24, verset 45. Qui est donc le serviteur fidèle et sage que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps convenable? Oui, cette parole aussi est vraie. Frères et sœurs, bien-aimés, je ne raconte pas d'histoire. Je ne dis que ce que j'ai réellement vécu avec Dieu, expérimenté avec Dieu. Même cette expérience à Edmonton, je n'ai pas besoin de la raconter en détail. C'était un dimanche matin puissant, impressionnant. Le soleil brillait dans la pièce. Et la voix du Seigneur a retenti audiblement. « Mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu 24, verset 45 à 47. Je t'ai établi, je t'ai déterminé à distribuer la nourriture au temps convenable. » C'est aussi vrai que n'importe quelle parole dans la Bible, frères et sœurs, on peut à nouveau poser la question. Étais-tu présent? Étiez-vous là? Avez-vous entendu? Il a suffi que le Seigneur le dise et que j'ai pu accomplir ce mandat. Cela, c'était la grâce de Dieu que j'ai pu accomplir ce mandat. Et j'en remercie le Seigneur pour cela. Je le remercie pour cela. Et même ceux qui se moquent de cela et disent simplement, oui, ah, le frère Franck, c'est bien le méchant serviteur dont il est question au verset 48 à 51. J'accepte toutes les moqueries me concernant. Je sais, moi, en qui je crois. J'étais présent quand le Seigneur l'a dit et je le crois. Et je dois vraiment dire à tous, que celui qui ne peut pas croire que le Seigneur a donné un ordre direct, un mandat, une commission directe, cette personne continuera à suivre ses propres voies et n'écoutera pas ce que l'Esprit a à dire maintenant à l'Église par le biais du dernier message, s'il te plaît. Nous lisons de Matthieu 4, le verset 4. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Amen.
Cela fait partie du même thème. L'homme ne vit tout de même pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est sortie de la bouche de Dieu. Et nous sommes donc reconnaissants de pouvoir croire chaque parole de Dieu et qu'elle soit devenue notre vie spirituelle, aussi sûrement que le Seigneur l'a dit. Aussi sûrement, nous le croyons et sommes reconnaissants pour chaque promesse, pour chaque parole. S'il te plaît, nous lisons le verset 14 de Matthieu 24. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Et ce message de salut concernant le royaume sera prêché par toute la terre, à toutes les nations, en témoignage, et alors viendra la fin. Cette parole précieuse et sainte devait aussi s'accomplir à notre époque, que le dernier message sera proclamé sur toute la terre, à tous les peuples, à toutes les tribus, à toutes les langues. Et c'est bien là le message divin du salut que nous portons et que nous avons annoncé. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que cette écriture s'est accomplie sous nos yeux. Frères et sœurs, tout ce que le Seigneur a prédit pour la fin des temps devait s'accomplir à notre époque. Car nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce. Et le Seigneur a tout de même annoncé tout ce qui allait se passer au cours des 2000 ans. Si vous allez dans Matthieu 24, vous constaterez que le Seigneur a d'abord parlé de ce qui arriverait au temple, de ce qui arriverait avec Jérusalem, de ce qui arriverait au peuple d'Israël, qu'il serait dispersé, que le temple serait détruit. Le Seigneur a commencé par ce qui était alors, a commencé par ce qui était autrefois et a terminé par ce qui est aujourd'hui. Et frères et sœurs, aujourd'hui, nous regardons le monde, dans le monde, et nous voyons les guerres, les cris de guerre, et les famines, les temps, cher, le changement climatique, tout est devenu, n'est-ce pas, hors de portée, tout n'est plus comme avant. Toute la création souffre. nous souffrons. Et ce qui va suivre, nous le savons tous, il y aura des choses terribles qui vont arriver. Les hommes chercheront la mort. Tout simplement, tout ce qui a été prédit dans la parole biblique et annoncé dans la prophétie va s'abattre sur la terre. Mais tout cela se passe autour de nous. Ce qui est important pour nous, c'est que le message divin du salut dans sa forme originale, tel qu'il a été annoncé au temps des apôtres, a également été proclamé à notre époque. Que le seul vrai Dieu éternel s'est révélé en tant que Père dans les cieux et en son Fils seul engendré par lui sur la terre et par le Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu parmi nous et Dieu à nous. La rédemption a été accomplie. Le sang de la nouvelle alliance a été versé. Le pardon a été accordé. La vie éternelle a été donnée. Et le Seigneur avait déjà dit dans l'ordre missionnaire que nous devions proclamer le message du salut. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il faut aussi souligner que le baptême se fait bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ et non dans la formule trinitaire inventée qui n'a jamais été utilisée par aucun prophète, par aucun apôtre, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Je ne veux pas m'étendre sur cette tromperie. Que Dieu nous fasse la grâce de revenir à l'original. S'il te plaît, nous lisons dans Ésaïe, chapitre 49, la deuxième partie du verset 6. Ésaïe, chapitre 49, la deuxième partie du verset 6. Je te détermine aussi à être la lumière des nations, pour que mon salut atteigne les extrémités de la terre. Amen. C'est la prophétie de l'Ancien Testament pour et sur notre Seigneur. Je t'établis, je te détermine comme lumière des nations, afin que mon salut se manifeste jusqu'aux extrémités de la terre. Non seulement Israël, mais aussi les nations sont incluses dans le plan de salut de Dieu, comme le Seigneur l'a dit et promis à Abraham. Toutes les descendants de la terre seront bénis en toi. Voici encore un autre passage biblique. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 14. Simon a rapporté comment Dieu lui-même avait d'abord été soucieux de gagner à son nom un peuple parmi les païens. Remercié soit le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, cela est confirmé, ce que Dieu avait promis dans l'Ancien. Et c'est bien là l'essentiel dans notre prédication, que l'accord total entre l'Ancien et le Nouveau Testament soit montré ici. Ici promis, les choses promises sont ici accomplies. Ici la promesse et ici leur accomplissement. Que le Seigneur en soit remercié. Encore une fois, un passage. Lisons dans Romains 11, verset 7. Qu'en est-il donc? Ce qu'Israël désirait, il ne l'a pas obtenu dans son ensemble. Mais la partie élue l'a obtenue. Tandis que les autres se sont endurcis. Cela aussi s'est passé comme Paul l'a écrit. Ce n'est pas tout Israël, mais tous ceux qui ont vraiment cru au message de Jean-Baptiste, puis au message des apôtres. Ce sont ceux-là seulement qui ont reçu et accepté. Ce sont ceux-là qui font partie des élus. Pas tout Israël, mais ceux qui ont accepté le message de Jean-Baptiste et des apôtres, ce sont ceux-là qui font partie des élus. Tous les autres, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas accepté, ont été endurcis. Il faut ici souligner à nouveau l'importance de croire Dieu, de croire dans son temps aux promesses. Celui qui ne croit pas Dieu fait Dieu menteur. D'où l'accent mis sur le fait de croire comme le dit l'Écriture en toutes choses pour pouvoir ensuite expérimenter personnellement ce que l'Écriture a promis et le vivre. Dieu appelle maintenant tous ceux des nations et achève son œuvre avec tous ceux qui viennent des nations. Puis il recommencera avec Israël. Il commencera avec les 144 000 après l'enlèvement, puis avec tout Israël ensuite. Avons-nous un passage biblique encore? Nous lisons dans Romains 11, le verset 5 maintenant. Romains 11, le verset 5. De même maintenant aussi en notre temps, il y a un reste selon l'élection divine de sa grâce. Que le Seigneur en soit remercié. Frères et sœurs, je n'ai pas vraiment besoin de prêcher en fait. Il me suffit d'aller seulement de passage en passage de la Bible et de lire. Tout est écrit. Et nous en sommes si reconnaissants. Nous n'avons pas besoin de dogme, pas besoin de catéchisme. Nous n'avons besoin de rien. Nous n'avons besoin que de Dieu et de sa sainte parole et de la sainte parole de Dieu. Permettez-moi de conclure, car le temps est presque écoulé. Frères et sœurs, nous avons entendu une parole si puissante du psaume 25 de la part de frère Keller et chaque verset nous parle, nous interpelle. De même, tous les autres passages bibliques nous ont parlé, nous ont interpellés. Le Seigneur ne nous ignore pas en parlant. Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. C'est à nous qu'il parle, il s'adresse à nous personnellement. Et nous pouvons aussi nous situer selon la parole de Romains que nous avons lue, selon le choix de la grâce divine. Il y a aussi maintenant dans notre temps un reste. Et nous pouvons faire partie de ce reste à notre époque, dans notre temps, maintenant. Regardez tous passent à côté de là. Tous passent à côté du mandat divin. À côté du mandat divin, ils disent, étiez-vous là quand le Seigneur a parlé à Frère Branham? As-tu entendu comme il lui a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé avant la première venue de Christ, ainsi tu es envoyé, tu seras envoyé avec un message, tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Il y a toujours et encore ceux qui font leur point d'interrogation parce qu'eux-mêmes n'ont pas de certitude de foi et de relation personnelle avec Dieu et la parole de Dieu. Celui qui a une relation personnelle avec Dieu et avec la parole de Dieu, celui qui est vraiment né de nouveau pour une espérance vivante, celui qui a vraiment reçu la vie éternelle, le pardon, la réconciliation, la grâce, et qui est devenu réellement un enfant de Dieu. Celui-là, il est engendré par Dieu lui-même. Il a reçu la grâce de Dieu. Il est né de nouveau pour une espérance vivante. Et celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Nous le lisons maintenant dans Jean 8, verset 47. Jean 8, verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous ne les écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est ce que le Seigneur disait alors. Il le disait à qui? Aux scribes, aux pharisiens. Aujourd'hui, il le dit aux scribes et aux pharisiens, tout comme autrefois. Autrefois. Mais il dit aussi que celui qui est de Dieu entend, écoute les paroles de Dieu. Et c'est là toute la différence aux scribes et aux pharisiens. Il dit, vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas les paroles de Dieu parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et ensuite, vous qui êtes de Dieu, qui êtes de Dieu, qui êtes né de Dieu, vous entendez, vous écoutez la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas nous, ce n'est pas moi qui jugeons, mais la parole de Dieu, qui, c'est elle qui prononce le jugement. Celui qui est de Dieu entend, écoute la parole de Dieu, entend, écoute la promesse pour notre temps à part à ce que Dieu fait actuellement. Celui qui n'est pas de Dieu a ses propres interprétations sur la parole de Dieu et n'entend et n'écoute pas ce que Dieu a à dire maintenant à son Église. S'il te plaît, où te situes-tu? Où te classes-tu? Où est-ce que la parole de Dieu te place, te classe-t-elle? Sommes-nous de ceux à qui le Seigneur doit dire, je ne sais pas ce que vous voulez, vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu? Ou bien est-ce que le Seigneur peut-il nous dire à toi et à moi, parce que vous êtes de Dieu, vous entendez la parole de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu? Et pour mentionner cela encore, nous n'étions pas là lorsque Frère Branham a reçu l'ordre, le mandat le 11 juin 1933. Mais personnellement, à la Pâque 1966, j'ai encore vu de mes propres yeux 12 personnes qui étaient au tabernacle à Jeffersonville, qui étaient présentes lorsque cette puissante expérience s'est produite le 11 juin 1933. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin et remercions le Seigneur de nous avoir permis de vivre maintenant, d'avoir reconnu le temps, de croire aux promesses et de faire partie des enfants de la promesse et de vivre par grâce l'accomplissement et d'être et de vivre par grâce l'achèvement et d'être présent lors du retour de Jésus-Christ qui est très proche. Une fois encore, nous adressons de Zurich nos vœux de bénédiction les plus sincères à tous les frères et à toutes les sœurs. Et nous sommes ici reconnaissants que à Zurich, les réunions peuvent de nouveau avoir lieu pour écouter la parole de Dieu et être bénis. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur vous tous qui pouvez croire, comme le disent les Écritures. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Amen.
Oh, viens avec moi à Golgotha et vois ce qui s'est passé pour toi là-bas à Golgotha. Plein de douleur et d'angoisse, il pria pour toi, abandonné des hommes, moqué et blasphémé. Ainsi, le Seigneur mourut pour toi. Oh, viens avec moi à Golgotha. Le Seigneur est sauveur du monde. Saigne là-bas. Cet homme que tu as abandonné. Mais c'est pour toi qu'il a prononcé cette parole. C'est accompli. C'est ainsi qu'il mourut pour toi. Oh, viens avec moi à Golgotha. Car c'est là que le ciel est proche de toi sur terre. Jésus là-bas a pris sur lui tes péchés. Et il a expié tes fautes et tes péchés en mourant à la croix. C'est là qu'il mourut pour toi.